106.9, Mauricie. Que la Mauricie se lève. Voici Patrick Lagacé.
Bon début de journée, Patrick.
Salut.
Comment ça va en cette superbe journée?
C'est moins beau qu'hier.
Aïe, 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 oui. Patrick, on parle du... Ce matin, ça retient l'attention, évidemment, dans l'actualité. Le syndicat des métallos qui a décidé de porter plainte à l'Organisation internationale du travail à propos là, des justement de des commentaires du premier ministre François Legault. Comment tu réagis justement à ce dépôt de cette plainte-là?
Ben, ça frappe l'imaginaire, tu sais, c'est une plainte à une organisation qui relève de l'ONU, c'est l'Organisation internationale du travail, fait que là, tu te dis, bon, la réputation du Québec, ce qui pourrait avoir un impact, etc. Mm-hmm. Et quand tu y regardes de plus près, comme le faisait un professeur de l'UQTR ce matin dans le Nouvelliste, ben, tu vois d'abord qu'il y a un petit enjeu de juridiction, hein, parce que c'est le Canada qui est représenté à l'Organisation internationale du travail, c'est pas le Québec. Donc là-dessus, semble-t-il qu'il va falloir que le Canada porte cette plainte-là, d'une part. Et après ça, s'il y a un blâme, mais ça demeure un blâme symbolique.
Ouais.
Donc, il n'y a pas d'effet dans le réel. Le gouvernement du Québec, s'il est blâmé, éventuellement dans un an ou deux, ce qu'il va avoir à souffrir, si on veut, c'est peut-être une brève dans quelques journaux dans le monde. Ouais. C'est à peu près ça.
Une tape sur les doigts, dans le fond, un blanc, mais finalement, ça n'a pas beaucoup de conséquences.
Exactement. Donc, regarde, ça, comme je te disais d'entrée de jeu, ça frappe l'imaginaire, mais ça ne peut pas changer grand-chose. À la fin, je comprends qu'on n'apprécie pas que François Legault prenne parti dans ce conflit-là. Je pense que le premier ministre dirait qu'il ne prend pas conflit, sauf que qui ne prend pas parti, sauf que jusqu'à maintenant, là, c'est aux syndiqués qui l'ont enjoint de mettre de l'eau dans leur vin. Donc, on peut dire que oui, c'est une façon de prendre parti. T'sais, moralement, ce qu'il dit, c'est un peu que ce sont les syndiqués qui sont déraisonnables. Puis c'est plate, mais je veux dire, qu'importe ce que dit le premier ministre, je pense pas qu'il y a grand-chose dans ce conflit-là qui va avancer tant que les deux parties vont pas s'entendre, tu comprends?
Ouais, puis le pire dans toute cette histoire-là, rappelle-toi, c'est les travailleurs, c'est le syndicat aussi qui voulait que le premier ministre se mêle de ce conflit-là, mais s'attendait pas à ce que François Legault prenne cette position-là.
S'attendait pas à ce qu'il prenne cette position-là, et c'est pas cette position-là qu'il avait annoncée pendant les élections. Hein. On se rappelle du passage de l'autobus. Là, il avait reçu les syndiqués dans son autobus de campagne. Avait sous-entendu, si je me souviens bien, qu'il pourrait utiliser l'histoire des contrats d'Hydro-Québec, là, qui est des contrats préférentiels, de taux préférentiels aux alumineries pour faire pression sur ABI, ça n'a pas été le cas. Et ça, ce que ça te montre, c'est le décalage immense qui existe entre ce que des politiciens, des politiciennes en campagne vont dire et faire, et ce qu'ils vont dire et faire après, quand ils arrivent au pouvoir. Parce que c'est facile de promettre mère et monde sur n'importe quoi. Après ça, il faut que tu livres. Moi, je pense que dans le calcul politique dans les officines, c'est pas compliqué. On se dit, regarde, on va pas pouvoir tout livrer. On va se concentrer sur des trucs qui sont importants et qui frappent l'imaginaire. Fait que dans ce cas-là, c'est facile de gagner la journée des manchettes en campagne électorale en disant que, faites-en pas, là, on va faire pression. Mais là, tu arrives au gouvernement, puis après ça, tu t'assois avec le président d'ABI, puis tu te dis, ouais, ABI, c'est 500 millions de chiffre d'affaires au Québec, de retombées, etc. Est-ce que je veux vraiment me les mettre à dos?
Et aussi, est-ce que je risque à ce moment-là que l'usine ferme, carrément?
Oui, mais le drame là-dedans, c'est que il y a peu de prise politique. Hein? Le politique n'a pas beaucoup d'impact là-dessus. C'est un conflit qui est privé.
Ouais.
Le premier ministre du Québec ne peut pas faire adopter une loi pour forcer un retour au travail. C'est pas un organisme d'État, ni de près ni de loin. C'est pas une compagnie québécoise au sens propre. Hein. Le siège social est aux États-Unis.
Ouais.
Moi, je demeure convaincu, par exemple, qu'il y a des conflits de travail où l'actionnariat est québécois, disons. Probablement que la politique a plus de levier, tu comprends?
Ouais.
Si ton président de syndicat, de centrale syndicale, siège à la caisse de dépôt, le corridor d'influence il est plus évident. Là, le boss, il est où? Il est à Pittsburgh, je pense.
Oui, il est à Pittsburgh.
Écoute, tu le croises peut-être une fois ou deux, trois ans. Je suis pas sûr que tu as un impact là-dessus.
Non, effectivement.
Tu comprends? Je me souviens du conflit là, des syndiqués du Journal de Montréal, par exemple. Beaucoup de gens qui faisaient pression pour que le Code du travail soit amendé. Il y avait, je pense qu'il y avait un couloir politique pour faire pression sur les partis, le syndicat et l'employeur à l'époque, parce que c'était un conflit typiquement québécois. Dans le cas d'ABI, c'est un conflit privé et la compagnie semble pas vouloir mettre d'eau dans son bain.
Effectivement, puis on veut pas se rasseoir non plus avec les représentants là, du syndicat. En tout cas, on voit pas, j'allais dire, la lumière au bout du tunnel, là, pour employer un bon vieux cliché, moment où ils vont finalement se retrouver face à face. Écoute, Patrick, il y a le premier ministre canadien, Justin Trudeau, hier, qui procédait à l'annonce de l'interdiction des plastiques à usage unique dès 2021. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est une annonce électorale ou encore est-ce que ça signifie que, comme leader politique au Canada, il n'y a pas le choix et il faut qu'il agisse en ce sens-là?
Bien, écoute, oui, les élections arrivent. Je pense qu'il va devoir redorer son blason vert parce que, avec l'achat du pipeline, avec certaines décisions qui ont appuyé les hydrocarbures, c'est sûr que le vernis environnemental que Justin Trudeau avait réussi à démontrer en 2015 quand il a été élu, ce vernis-là est un peu égratigné, tu comprends? Mais il y a quand même une tendance un peu partout à réclamer une fin à l'utilisation du plastique à usage unique, que ce soit des pailles, que ce soit des bouteilles d'eau, etc. Donc, je pense qu'il va falloir en venir là à un moment donné. Tu sais, il y a au Canada une sorte d'aberration. Moi, je suis déjà allé en Haïti. Je suis allé en reportage 3-4 fois là-bas. Si tu veux boire de l'eau, ça te prend de l'eau embouteillée. Mm-hmm. Parce que c'est à peu près la seule eau disponible potable. Et c'est un drame en soi. Mais au Canada, on a des réserves d'eau douce. On a l'accès à l'eau potable. Je pense que le dernier chiffre que j'ai vu, c'était 97 % du territoire. Ben, c'est un peu absurde de penser qu'on va s'acheter des caisses d'eau. Puis quand tu regardes le prix d'un litre d'eau, c'est plus cher. Il y a des bouteilles d'eau qui sont plus chères que le litre d'essence.
Ah ouais, t'as raison.
Et après ça, tu prends ta bouteille d'eau puis ta sac au vidange. Mm-hmm. Je te dis pas que ça s'en va directement dans l'océan, mais ça fait quand même une forme de pollution. On sait aussi, maintenant, tu sais, il y a une étude qui est sortie la semaine passée. Tu bois de l'eau embouteillée, ben tu bois des micro-particules de plastique. Pas sûr que c'est bon pour ton organisme.
C'est un peu la mode à certains moments donnés aussi, Patrick, avoir ta bouteille d'eau un petit peu partout. Oui. Tu vois ça, les gens qui ont bouteille d'eau au travail ou peu importe.
Comment je te dirais? Un des problèmes de la pollution, c'est que ce qui pollue bien souvent, c'est un effet de la façon dont nos vies se trouvent facilitées. Avec l'industrialisation, avec les avancées économiques, avec le génie du commerce. Tu sais, te pogner une bouteille d'eau puis la traîner, c'est super facile. Moi, je pense que c'est plus facile dans le geste que de traîner ta bouteille recyclable, que tu dois nettoyer, que tu dois pas oublier, etc. Mm-hmm. Écoute, ça te demande un petit effort, la bouteille recyclable, la réutilisable. Mais c'est bien plus facile de te pogner une nouvelle bouteille d'eau dans le frigidaire de format 500 millilitres, de mettre dans ton lunch puis la sacrer au vidange après. On se comprend.
Ben oui.
Donc, et tu peux dire la même chose de beaucoup de choses qui polluent. Fait que moi, j'ai toujours vu la pollution comme un effet secondaire aussi du fait que nos vies se trouvent facilitées si on se compare à nos arrière-grands-pères.
Ouais, puis même chose quand tu as une petite commission à faire dans une épicerie puis que finalement, tu oublies tes sacs puis tu prends des sacs en plastique.
Et c'est vrai, moi, je pense que dans le grand ordre des choses, là, dans le grand défi des changements climatiques, ça change pas grand-chose. Mais je pense aussi que les gouvernements doivent agir localement. Puis localement, ce que je veux dire par là, c'est que tu protèges ta source d'eau, tu essaies de sortir les voitures des centres-villes, des quartiers, le plus possible pour les rendre plus vivables, bien plus que pour te dire, écoute, si on élimine 20 000 autos à Montréal cette année, on va sauver la planète. Je pense pas, mais on va peut-être sauver une couple de personnes qui seraient mortes du smog, par exemple.
Merci beaucoup, Patrick. Passe une très belle journée. Salut, bye-bye. Patrick Lagacé, donc, et son commentaire du lundi au jeudi.